De toutes les causes qui limitent les performances des machines hydrauliques, c'est la cavitation qui impose les contraintes les plus sévères. En effet, l'eau se vaporise, et à l'écoulement monophasique liquide se substitue un écoulement en double phase, pour lequel la plupart des machines n'ont pas été optimisées. Ce phénomène se traduit par une diminution du rendement. En même temps, on assiste à l'apparition de bruits et de vibrations. Et dans la zone où les bulles de vapeur se résorbent, les parois peuvent être érodées, selon un mécanisme encore mal élucidé, qui met en jeu l'énergie transmise par l'écoulement à ces parois. En première approximation, on peut admettre que la cavitation apparaît en un point quelconque d'un écoulement lorsque la pression en ce point devient inférieure à la pression de vapeur saturante de l'eau. En conséquence, pour éviter le risque de cavitation quand la vitesse augmente autour d'un profil, il est nécessaire de diminuer à la fois l'épaisseur du profil et sa cambrure. Mais on est limité dans cette voie, car la diminution d'épaisseur doit respecter les contraintes de solidité de l'aile. Et la diminution de cambrure aurait pour effet de pénaliser la finesse. Au-delà d'une certaine vitesse, il devient donc pratiquement impossible d'éviter la cavitation. Il faut alors essayer de la domestiquer. Une solution possible consiste à utiliser un profil à arrière tronqué dont la loi d'épaisseur coïncide avec celle d'une ligne de jet. On peut ainsi diminuer la survitesse due à cette loi d'épaisseur sans nuire à la solidité de l'aile. À grande vitesse, l'écoulement décolle à l'arrière, ce qui peut être considéré comme un fonctionnement acceptable si deux conditions sont réalisées. D'une part, la partie du profil qui reste mouillée ne doit pas être sujette à la cavitation pour les conditions de fonctionnement prévues. D'autre part, les points de décollement à l'extrado et à l'intrado doivent rester stables. La survitesse due à la loi d'épaisseur est d'autant plus faible que la cavité qui s'étend derrière le profil est plus longue. Pour cette raison, il est intéressant d'injecter de l'air dans cette cavité. Ceci a pour autre effet favorable de diminuer la traînée. Nous allons examiner au plan théorique et au plan expérimental le comportement d'un tel profil lorsqu'il est placé au voisinage d'une surface libre. Sur le plan expérimental, il est nécessaire de disposer d'une installation qui permette l'injection de grandes quantités d'air dans la section d'essai sans que la teneur en air de l'écoulement amont soit modifiée. Le tunnel utilisé comporte deux cuves à surface libre de grande dimension montées entre la section d'essai et le groupe moteur-pompe. La plus grande partie de l'air injecté est évacuée dans la première cuve. La deuxième cuve sert au réglage fin. Le modèle est percé de trous qui servent à acheminer l'air à l'intérieur de la cavité. Une prise de pression est aménagée dans la partie médiane du modèle. À noter que la corde du profil à l'extrado a une longueur inférieure à celle de l'intrado. Le barreau dynamométrique utilisé pour la mesure des efforts est monobloc, compact et rigide. Les trois ponts de jauge qui servent à la mesure des efforts portance, traînée, moment sont usinés directement dans la masse. Un système de lames minces, également usiné dans la masse, permet d'obtenir un très bon découplage entre les efforts. Ce barreau est logé à l'intérieur d'un carter cylindrique étanche, lui-même monté à l'intérieur d'une cage fixée à la paroi de la veine par des boulons. Le carter peut tourner à l'intérieur de la cage, entraînant dans son mouvement à la fois le barreau et le modèle. La position angulaire de l'ensemble est assurée au moyen d'un vérin télécommandé dont le mouvement peut être préprogrammé à l'aide de la chaîne de mesure. La lecture précise de cette position angulaire est faite par un codeur optique dont le pouvoir de résolution est de plus ou moins une minute. Sur le plan théorique, il est nécessaire pour expliquer le comportement du profil placé dans la veine de tenir compte de la présence du fond, de la surface libre, de la cavité et du sillage qui se développe à l'arrière. L'écoulement, au niveau de la cavité et de son sillage, est de nature essentiellement instationnaire, ce qui, dans certains cas, peut se traduire par des variations importantes des efforts appliqués au profil. Pour rendre compte de ce caractère instationnaire, il serait nécessaire de développer une théorie qui prenne en considération les différents mécanismes d'évacuation de l'air hors de la cavité. Formation d'ondes sur les faces supérieures et inférieures de la cavité, associées à l'existence du jet rentrant, comme on le voit ici. Existence d'une zone fortement diphasique et turbulente à l'arrière de la cavité lorsque le débit d'air est important. Entraînement direct à l'interface liquide-gaz des parois de la cavité. Mais en raison de sa complexité, une telle théorie apparaît pour l'instant hors de portée. On surmonte la difficulté en modélisant la cavité et son sillage selon un schéma stationnaire. Et on convient de comparer les valeurs ainsi calculées aux valeurs expérimentales moyennes. En écoulement stationnaire, il est préférable d'ouvrir la cavité à l'arrière pour tenir compte du débit d'air qui s'échappe. Le sillage est alors représenté par une surface de déplacement grand S, le long de laquelle on se donne une loi de pression empirique. Quatre lois ont été successivement utilisées. Pour les écoulements rapides, la loi S0 correspondant à une surpression nulle sur la surface de déplacement du sillage. Et la loi S1 proposée pour la première fois par Michel en 1977. Pour les écoulements lents, les lois S2 et S3. Les quantités mu et nu apparaissant dans la loi S3 représentent deux paramètres libres. Alors que les paramètres θ1,0, θ1,1 qui apparaissent dans les lois S1, S2 et S3 sont fixés compte tenu des conditions choisies pour fermer le modèle. Les paramètres θ1,0, θ1,1 caractérisent la surpression qui existe effectivement à l'arrière de la cavité. Dans la suite, on désignera par K la dépression relative de la cavité. K sera appelé nombre de ventilations. Examinons tout d'abord l'influence du soufflage sur les efforts. Pour cet essai, la pression dans la veine est la pression atmosphérique. La vitesse est de 7 mètres secondes et le profil est calé à moins 1 degré. Ce réglage correspond à un nombre de cavitations égal à 4, valeur trop grande pour qu'une cavité de vapeur puisse se former. En soufflant de l'air à l'arrière du profil, on favorise la formation de la cavité et l'on obtient une diminution rapide de la portance et de la traînée. Ultérieurement, le débit d'air injecté continuant à augmenter, la cavité s'allonge. La traînée continue à diminuer régulièrement, tandis que la portance diminue encore un peu, puis augmente ensuite très rapidement. Examinons pourquoi la portance passe par un minimum lorsque la cavité s'allonge. Pour ce faire, nous utiliserons le modèle S1. Quand la cavité est courte, la répartition de la pression sur le profil est complètement déséquilibrée, la portance étant assurée presque exclusivement par la mise en dépression de l'extrado. L'augmentation du soufflage a pour effet de provoquer une augmentation de la pression à l'arrière du profil qui se répercute sur l'extrado et sur l'intrado. L'augmentation de la pression à l'intrado ne compensant pas la diminution de la dépression à l'extrado, la portance du profil diminue. Sur ce dessin, les épaisseurs du profil et de la cavité, ainsi que les déformations de la surface libre, sont multipliées par 4. Lorsque la cavité dépasse une longueur de 2 cordes, la pression à l'intérieur varie de plus en plus lentement, alors que la géométrie continue à se modifier sous l'influence du soufflage. Cette déformation conjointe de la cavité et de la surface libre induit un angle d'incidence qui a pour effet d'augmenter la portance. La portance du profil étant très sensible à cet effet d'incidence induite, il est nécessaire, au niveau théorique, d'utiliser un modèle capable de restituer une géométrie aussi correcte que possible pour une pression de cavité donnée. Le critère d'exactitude le plus simple est évidemment la loi L de K, où L représente la longueur de la cavité et K le nombre de ventilations. Sur cette figure, il est clair que le modèle S1 donne une longueur de cavité beaucoup plus proche de la réalité que celle donnée par S0. Ceci explique pourquoi la portance calculée avec le modèle S1 est meilleure que la portance calculée avec le modèle S0. Le modèle S0, qui restitue une longueur de cavité trop courte, minimise l'influence de la surface libre. Lorsque la cavité devient très longue, la pente de la surface libre au droit du profil tend vers une valeur asymptotique égale à la pente de la face supérieure du profil, schématisée ici par un coin de demi-angle au sommet 8 degrés. Ainsi, pour une pression de cavité fixée, la forme de la surface libre au droit du profil ne dépend plus de la longueur de la cavité. On comprend ainsi pourquoi les deux modèles S0 et S1 tendent à donner des coefficients de portance identiques lorsque K tend vers 0. Examinons maintenant l'influence de l'angle d'incidence sur le comportement du profil et de la cavité. Pour cet essai, la pression dans la veine est réglée à 1/10 d'atmosphère et la vitesse est de 4 mètres secondes. Le débit d'air est maintenu constant pendant toute la durée de l'essai. On constate que la mise en incidence du profil a pour effet de provoquer un raccourcissement de la cavité. Tant que l'angle d'attaque reste modéré, la pression dans la cavité varie très peu. À 4,5 degrés, la cavitation apparaît. Puis, à mesure que la nappe issue du bord d'attaque s'étend sur l'extrado sous l'effet de la mise en incidence, les intumescences qui se développent à la frontière supérieure de la cavité deviennent de plus en plus importantes. Ce mouvement désordonné qui s'amplifie favorise l'évacuation de l'air, ce qui a pour effet de provoquer une diminution rapide de la pression à l'intérieur de la cavité. Sa longueur diminue alors plus rapidement. Lorsque la nappe issue du bord d'attaque s'approche du bord de fuite, l'écoulement passe brutalement en régime supercavitant. Une prise de vue rapprochée permet de mieux comprendre comment se produit le passage en régime supercavitant. Le décrochage est concomitant à l'une des explosions qui accompagnent le passage au-dessus du bord de fuite des bouffées issues de la nappe cavitante. Plusieurs essais effectués pour différents réglages ont montré qu'à grande vitesse, le décrochage de la cavité est toujours provoqué par le développement de la cavitation. Tant que la pression dans la cavité reste à peu près constante, le modèle S1 est capable de rendre compte du raccourcissement qu'on observe sous l'influence d'une mise en incidence. Cependant, la théorie ne tenant pas compte des phénomènes d'interface ne peut expliquer pourquoi, aux fortes incidences, l'évacuation de l'air s'accélère. Examinons pour terminer l'influence de la vitesse. Pour cet essai, la pression dans la veine est de 1/10 de la pression atmosphérique. l'incidence est de 0 degré et la vitesse est réglée à 3 mètres secondes. La cavité a une longueur de 2 cordes et demie. La valeur correspondante de K est alors de 0,05. On augmente ensuite la vitesse progressivement en maintenant constant le nombre de ventilations. Pour cela, il est nécessaire d'augmenter le débit d'air et l'on constate que la cavité s'allonge. À 10 mètres secondes, la portance est supérieure à ce qu'elle était à 3 mètres secondes. Divers essais effectués pour différentes valeurs du nombre de ventilations ont confirmé que pour K fixé, une augmentation de la vitesse a bien pour effet d'augmenter la longueur de la cavité. Un calcul effectué avec le modèle S2 confirme ce résultat. Cependant, l'augmentation de longueur de la cavité donnée par la théorie est trop petite comparée à l'expérience. Une solution possible pour améliorer les résultats du calcul consisterait à admettre que les coefficients mu et nu introduits dans la loi S3 dépendent eux-mêmes de la vitesse. Physiquement, cela voudrait dire que l'influence de la vitesse ne s'explique pas seulement par un effet de gravité. Un deuxième effet se superposerait. Il serait lié à trois causes. À la manière dont l'air s'échappe hors de la cavité, à la valeur de la surpression qui s'établit à l'arrière. Notons que cette surpression peut fort bien dépendre de la vitesse sans que cette dépendance soit liée à la pesanteur. Enfin, la troisième cause concerne l'évolution de cette surpression vers l'aval sous l'influence de la turbulence, elle-même liée au caractère diphasique du sillage. Pour proposer valablement une loi de dépendance des paramètres mu et nu vis-à-vis de la vitesse, il serait nécessaire de disposer d'un grand nombre de résultats expérimentaux établis de manière indiscutable, ce qui n'est malheureusement pas le cas. À titre indicatif, on peut cependant signaler qu'en choisissant pour mu et nu la loi suivante, loi S3, où mu égale 1/25 de bêta et nu égale 1/25 de bêta moins 1, on obtient une très bonne concordance entre les résultats du calcul donné par le modèle et les résultats expérimentaux. La recherche de performances de plus en plus élevées conduit les hydrodynamiciens à prévoir des machines pour lesquelles le risque de cavitation n'est pas exclu. En utilisant des profils dont la loi d'épaisseur augmente continuellement vers l'arrière, on rejette en aval la zone de recompression, ce qui permet de minimiser les nuisances dues à la cavitation. En particulier, les noyaux de vapeur ne collapsant pas à la paroi de l'aile, le risque d'érosion est écarté. L'utilisation de tels profils présente cependant des inconvénients. À cause de la présence de la cavité, la traînée est importante. Par ailleurs, le risque de passage en régime supercavitant par remontée de la poche de cavitation vers le bord d'attaque n'est pas à écarter. Pour ces raisons, l'utilisation de tels profils ne devra s'envisager que dans des cas bien spécifiques.